France Info.
Bonsoir les informés, édition spéciale consacrée à l'interview d'Emmanuel Macron à France Info. Avec vous Judith Vintraub, bonsoir, grand reporter au Figaro Magazine. À mes côtés également, bienvenue à vous Marie-Cécile Nave. Vous êtes, bonsoir, directrice des études du think tank du cercle de réflexion sport et citoyenneté. Vous dirigez l'observatoire genre et géopolitique à l'IRIS. C'est votre dernier essai, s'intitule « Le sport, outil d'émancipation des filles, ça tombe bien, et des femmes à travers le monde ». Également, bonsoir à vous, notre partenaire des informés du dimanche. Bonsoir François Hernandwein.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef à La Croix, enseignant également à Sciences Po. Et à mes côtés, Serge Auru. Bienvenue Serge Auru, bonsoir. Bonsoir. Conseiller auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT.
D'abord, c'est la discipline du quotidien. Et je le dis à tous nos auditeurs, aux plus jeunes en particulier, il n'y a pas d'exploit sportif s'il n'y a pas des années et des années de sueur, s'il n'y a pas des sacrifices de samedi, de dimanche, de soirée, de soi comme de la famille, comme des petits clubs. Donc c'est le sens de l'effort et du sacrifice. Et je le dis parce que parfois on l'oublie. On a le goût de l'éphémère, on pense que l'exploit est détachable du reste. Ce n'est pas le hasard l'exploit. Il y a des très grands sportifs qui n'auront jamais de chance et qui n'auront pas rendez-vous avec l'histoire. Il y en a qui ont peut-être la petite chance ou le petit talent en plus, mais enfin, toujours, ce sont des efforts énormes. C'est d'abord ça. La deuxième chose, c'est un moment organisé dans lequel on décide qu'il y a un début, une fin, et que pendant cet espace-là, on donne le meilleur de soi. Et il y a des règles. Et c'est moi, j'aime cette espèce de discipline, comme il doit y en avoir dans le débat politique, dans la vie en politique, comme dans le monde économique. Il faut une scansion, il faut que le temps s'organise pour savoir quand commence la compétition, quand elle se termine, et qu'on puisse mesurer qui est le gagnant, qui est le perdant, avec des règles qui sont peut-être toujours améliorées, mais voilà.
Voilà, donc il y a un début, il y a une fin, il y a des règles, il y a de la discipline. Premier extrait donc de cette interview exclusive du président de la République Emmanuel Macron, accordée à France Info, avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde féminine de football États-Unis-Pays-Bas au Stadium de Lyon. Bonsoir à vous Jacques Vendroux.
Bonsoir à tous.
Voilà, vous êtes en direct donc de Lyon, j'imagine, Jacques.
Oui.
Votre impression, Jacques Vendroux, après cet entretien que vous avez mené avec Jérôme Cadet, Emmanuel Macron aura valorisé les valeurs du sport, hein.
Ben d'abord, le président Macron aime profondément le sport et il connaît parfaitement le sport. Et là, quand je viens d'entendre l'extrait du président Macron, je veux dire, sur le sport, c'est un résumé tout à fait réaliste. C'est-à-dire que on n'est pas champion par hasard, on perd pas par hasard, on gagne pas par hasard. Il a dit, ça s'applique à tous les milieux, notamment au milieu de la politique. Mais au-delà de cette réflexion assez logique du président de la République, ce qui est important, c'est qu'il est extrêmement conscient des difficultés des uns et des autres. On manque de bénévoles, il manque des arbitres, il faut respecter, je veux dire, toutes les personnes qui travaillent discrètement dans les petits clubs. Il n'y a pas que l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, il n'y a pas que les Girondins de Bordeaux, il y a 10 000 clubs qui ont des difficultés, et il faut surtout être conscient que on a besoin d'eux. Vous savez, on rigole toujours avec ça, mais la personne qui lave les maillots, par exemple, dans un stade, dans un club, c'est la personne la plus importante. Eh bien, il faut lui donner un statut, il faut lui donner une solution pour essayer de continuer à exister. Et alors, puis c'est vrai que on a parlé de Marseille, on a parlé d'Ekberg. Marseille, c'est son club de cœur. Stéphane Edberg, c'est son tennisman préféré avec Becker. Bon, on s'adresse à quelqu'un qui répond quasiment à tout en ce qui concerne le sport.
Alors, Jacques, quand vous l'avez titillé au sujet des CTS, les conseillers techniques sportifs, le président de la République a eu cette réponse. Dans le sport, a-t-il dit, comme partout, on n'aime pas les changements et on oublie parfois d'être courageux pour soi-même. Il y avait un petit côté tacle dans ses propos parfois.
Oui, il a toujours été, il a été extrêmement clair dans toutes ses interventions. Cela dit, en ce qui concerne les CTR dont on vient de parler, d'abord, il ne les laissera pas tomber et il trouvera des moyens avec son ministre des Sports. Comme il a été extrêmement clair, net et précis, c'est pas normal que Total se retire du comité de sponsoring des Jeux Olympiques de 2024. Il a été très clair, il est très étonné. Il est
on va y revenir là-dessus, oui, oui, absolument, avec nos invités. Dernier mot avec vous, Jacques Vendroux, parce que je pense que vous allez être sur le chemin du retour. Je crois que vous l'avez embauché dans votre équipe.
Comment ?
Vous l'avez embauché dans votre équipe.
Vous avez réussi plus, à... Oui, ça c'est, là, ouais. C'est sur le gâteau. Sur le gâteau, je lui ai demandé de venir faire une mi-temps avec le Variété Club de France. Il a dit oui. On a proposé que ce soit le 16 octobre à Bayonne pour un match caritatif. Il a en partie dit oui s'il était libre. Et en plus, à l'occasion du 50e anniversaire de notre club, eh bien, va nous inviter à dîner à l'Élysée. Donc voilà, on a recruté en plus un arrière-gauche qui veut absolument porter le numéro 3. Voilà.
Merci en tous les cas à vous, Jacques Vendroux. Merci pour votre intervention ce soir. Et je rappelle à cette interview que vous avez menée avec Jérôme Cadet, du président de la République, en direct de Lyon. Je me tourne vers vous, Judith Vintraube. Premier commentaire sur cette évocation qu'on a entendue tout à l'heure, l'exploit, l'effort, le sacrifice. Ça vaut pour le sport, ça vaut pour la politique. Ce sont toujours les mêmes allégories, finalement.
Oui, comme d'habitude, dans cet exercice assez convenu, les responsables politiques parlent d'abord d'eux-mêmes et de leur trajectoire. J'ai surtout retenu la phrase dans laquelle il dit « il y a des sportifs qui n'ont jamais rendez-vous avec l'histoire ». Bon, c'est l'éternel mélange, c'est aussi ce que disait Napoléon. Vous savez, quand on lui proposait des soldats à la promotion, on lui disait « celui-là, il a été formidable, héroïque sur tel et tel champ de bataille ». Et Napoléon demandait « mais est-ce qu'il a de la chance ?» Et il y a toujours cet ingrédient chance qui fait que le travail le plus ardu, le plus difficile n'est rien si effectivement votre rendez-vous avec l'histoire ne se produit pas. Donc Emmanuel Macron parle de lui-même et pense à lui-même. Ce qu'il dit sur les valeurs du sport est tout à fait agréable à entendre. À un moment où on voit assez souvent sur les terrains des comportements déshonorants.
Allez, on va poursuivre ce tour de table rapidement. D'abord, on marque une petite pause avec vous à 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info, Léo Teicher.
Les Américaines championnes du monde de football, victoire 2-0 ce soir contre les Pays-Bas. Et donc avant la finale, en exclusivité pour France Info, Emmanuel Macron s'est notamment projeté sur la prochaine grande compétition organisée en France, les Jeux Olympiques de 2024. Ils devront, selon lui, être exemplaires du point de vue environnemental. Alors dans ce contexte olympique, le président assure vouloir un budget au rendez-vous. Il balaye les rumeurs de disparition du ministère des Sports. La récente création d'une agence nationale du sport n'a pas pour but de faire des économies, mais dit-il de rapprocher les conseillers techniques sportifs du terrain et donc des fédérations. Un pompier pyromane arrêté dans l'Hérault, un homme de 47 ans, pompier volontaire, surpris en flagrant délit avant-hier. Il était en train d'allumer un feu à Florensac. Il est suspecté d'en avoir allumé beaucoup d'autres, notamment à Agde et à Bessan. Un puissant tremblement de terre au large de l'Indonésie ce soir. Séisme de magnitude 7,1. Une alerte au raz-de-marée est déclenchée dans l'est du pays, notamment sur l'île du Sulawesi. Et puis l'équipe Jumbo remporte la deuxième étape du Tour de France, un contre-la-montre par équipe. C'est le Néerlandais Mike Tennyson qui conserve donc son maillot jaune. Notez la belle performance également de Thibaut Pinot et de son équipe, la Groupama FDJ, qui n'ont perdu que 12 secondes sur l'équipe Ineos de Geraint Thomas.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Poursuite de ce tour de table que nous avons entamé avec Judith Vintraube. D'abord, un extrait de l'interview présidentielle d'Emmanuel Macron sur la Coupe du Monde féminine de football. Succès qui ne s'est pas démenti.
Alors, je n'ai pas été surpris parce qu'on l'a vu sur d'autres sports, en France en particulier. Et quand j'avais visité il y a quelques semaines à Clairefontaine nos joueuses, je leur avais dit de toute façon que cette Coupe allait changer les choses pour elles, pour le public français et même pour ce sport. Parce que ça, on le voyait venir. On l'a vu pour le handball. Ces dernières années, on a des équipes qui ont performé, des championnats qui ont été rythmés et on a eu des chiffres à la télévision qui ont dépassé toutes les attentes. Là, ça y est, pour ce sport féminin, les choses ne seront plus jamais pareilles. On a des stades à guichets fermés, 24 000, me dit-on, supporters et supportrices américains qui sont là pour soutenir leur équipe, incroyable, et on a des chiffres d'audience qui sont absolument 13 millions, extraordinaires. 13 millions.
Alors Marie-Cécile Nap, vous avez écrit là-dessus, hein, ce mondial représente une sorte de levier pour accélérer l'égalité femmes-hommes dans le football, mais pas que.
On verra. Là, on en est encore au stade des discours un peu incantatoires dans le sport est familier. On rejoint dans ce que dit le président de la République, ce que disent aussi les dirigeants de la Fédération française de football. Et moi, je ne crois pas à la pensée magique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retombée sociétale, économique, environnementale, sociale de cette Coupe du Monde de manière magique, de manière automatique.
Oui, on verra ce qui se passe. On oublie demain matin déjà ou on passe à autre chose?
Peut-être. Si à la rentrée de septembre, il y a des milliers de jeunes petites filles qui veulent aller faire du foot dans les clubs, est-ce que les clubs auront les moyens de les accueillir en termes d'infrastructures, en termes de vestiaires, en termes d'horaires, en termes d'entraîneurs? C'est pas sûr. Et puis, une culture sportive, ça ne se décrète pas. La France n'est pas une nation sportive. Il y a un ministère qui est exemplaire en la matière, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Mais sinon, on n'envisage pas le sport et l'activité physique comme une politique publique transversale. Et j'en viens à ce que disait
C'est l'esprit français ou ce sont les institutions et c'est la structure sociétale qui font que la France ne serait pas sportive à vos yeux?
La structure sportive découle d'une certaine représentation collective où en France, on n'utilise pas le sport autant qu'il devrait être un levier de lutte contre la sédentarité, de liens sociaux, de liens intergénérationnels. Et donc j'en viens à ce que disait Jacques Vendroux, qui est très intéressant, sur la question des bénévoles, des territoires. On a un rendez-vous manqué avec la Coupe du Monde masculine de l'année dernière, où on a valorisé beaucoup les territoires, les bénévoles dans l'ensemble de la France. Qu'est-ce qu'on a fait de ça, justement? Est-ce qu'on n'aurait pas dû profiter de ça pour reconnaître davantage les compétences acquises dans le bénévolat pour la carrière professionnelle? Et donc, aujourd'hui, ce qui est prévu en termes d'héritage par la Fédération française de football, c'est créer des city-stades, c'est-à-dire revenir à une politique de la ville exclusivement réservée ou prise en charge par les garçons. Donc, c'est tout à fait obsolète. Et il y a de nombreux autres exemples sur lesquels on pourrait s'appuyer. Pour l'instant, ça reste du discours incantatoire et magique.
Vous êtes un peu sceptique. Hein. François Ehrenwein, les grands événements sportifs, est-ce qu'ils sont des moments émancipateurs dans la marche d'un pays?
Bah oui, c'est frappant là. Effectivement, on a raison d'être vigilant et de poser les questions que vous venez d'évoquer. Mais quand même, on a vécu un moment assez fort. Il y a eu 51 matchs en un mois. Les Français et les Françaises se sont passionnés pour ce mondial. Je trouve que c'était quand même un moment très sympathique. Effectivement, on a tout à fait raison de voir si ça sera suivi des faits, si ça s'inscrira dans les politiques publiques, si ça créera en profondeur une dynamique. Mais le président de la République, assez habilement, n'a pas concentré son propos simplement sur l'événement sportif. En évoquant les bénévoles, il a parlé de la structure du sport en France, qui repose quand même beaucoup sur le bénévolat. Et en évoquant cette question, c'est aussi un appel à l'action, je pense.
Oui, ça j'aurais justement pour prolonger ce que dit François Ehrenwein à l'instant. Est-ce qu'on l'en fait assez pour le sport dans ce pays?
Jamais assez. Vous savez fort bien, il y a les Jeux Olympiques qui se profilent. Il y a des emplois aidés qui sont supprimés, il y a des CTS, les conseillers techniques sportifs qui vont changer et de statut et certainement d'autonomie. Donc non, on ne fait jamais assez, mais il faut saluer quand même l'équipe américaine qui nous a éblouis et puis qui a un véritable engagement politique intéressant pour des sportifs de haut niveau.
Parce que vous êtes fan de foot, hein, il faut le préciser pour ceux qui nous écoutent.
Moi j'aime beaucoup l'OM, j'aime beaucoup Bastia, soyons clairs.
Allez, c'est parti.
Et Saint-Etienne. Et donc.
Ça fait beaucoup.
Ouais. Et oui, mais.
Et là pour vous c'était au niveau, c'était passionnant, on arrive à s'approprier ces nouvelles championnes.
Il y a une équipe nationale américaine qui défend l'égalité salariale dans le sport, qui a des positions vis-à-vis de Trump qui ne sont pas inintéressantes pour des sportifs de haut niveau. Donc l'engagement sociétal de cette équipe américaine est à saluer, voilà.
Alors, justement, vous saluez donc la performance et même la présence, hein, voire l'engagement de ces sportives. Et il y avait les polémiques, souvenez-vous, sur le cyclisme féminin. Hein, c'était il y a quelques années de cela. C'était, ce n'est pas un sport de femmes, disait-on. Est-ce que le football
qui
y échappe
est
Oui, disait-on dans les médias. Certains sportifs certains sportifs masculins, certains cyclistes masculins disaient cela.
Partager le gâteau, bien sûr.
Alors, augmenter le nombre de joueuses, certes, mais progresser aussi dans le salaire et les primes, ça ne se commande pas. Est-ce que c'est fonction du succès? On va écouter ce que Emmanuel Macron a dit justement sur les primes des joueuses.
Quand on regarde les chiffres d'audience, d'affluence dans les stades, on vit une révolution, celle qu'on évoquait tout à l'heure. On est en train de se rapprocher des chiffres du football masculin. Ce qui est vrai, c'est que les retours qui sont faits vers les fédérations nationales de la FIFA ne sont aujourd'hui pas du tout les mêmes. C'est à peu près 10 fois moins. Donc là, on a un vrai sujet. Est-ce que c'est une fatalité? Pas du tout. Regardez le tennis, où on s'est habitué depuis plusieurs décennies à avoir de l'excellence féminine-masculine. Les primes des joueuses à Roland-Garros sont quasiment les mêmes que celles des hommes. Donc on va aller, je pense, vers une forme de rééquilibrage. C'est indispensable.
François Hernenbein, voilà de nouveau le retour de l'égalité femmes-hommes, le débat.
Oui, mais la bataille est légitime et les joueuses américaines ont montré qu'elles avaient l'intention de la mener et d'obtenir des résultats. Mais dans le raisonnement du président de la République, il y a quelque chose qui relève du « laissons du temps au temps ». Voilà, « laissons du temps au temps ».
Marché, vous dites, oui, oui.
Ah oui, bien sûr.
Prendre l'exemple du tennis et prendre un segment sportif particulier, poser la question globalement, c'est différent de parier sur une évolution comparable dans le football, parce qu'au tennis, ça s'est produit. D'ailleurs, le tennis est à peu près le seul, un des rares exemples où les choses peuvent commencer à être comparées. La bataille globale de l'égalité ne sera jamais gagnée à partir d'exemples marginaux.
C'est le seul sport, le tennis, où finalement il y a une forme d'égalité dans les primes.
Uniquement dans les tournois du Grand Chelem, parce qu'ils sont télévisés en même temps, ils ont lieu en même temps, et donc on n'est pas capable de dire lequel des deux est le plus rentable. Donc, à partir du moment où on se pose cette question-là, la logique du marché, eh bien, elle est un peu fragilisée par le principe de réalité.
Et Judith Vintraub, vous le disiez, le marché.
Voilà, on parle vraiment du sport de haute compétition. C'est pas le club des poètes.
On peut pas décréter que les femmes pourraient toucher autant que les hommes.
Non, parce que comme vous n'auriez pas remarqué, ils ne vivent pas de deniers publics tous ces gens-là, ni les joueurs, ni les clubs, ni les retransmissions, ni les chaînes qui retransmettent.
Enfin là, il faudrait regarder un peu plus près les subventions.
Ni les diffuseurs. Mais moi, je trouve ça. C'est vrai qu'il y a aussi des subventions, mais. Toute la mousse qu'on fait autour du football joué par les femmes, il paraît qu'il ne faut pas dire le football féminin, c'est aussi lié à ça.
Vous dites mousse.
Oui. Je trouve qu'on en fait vraiment, vraiment beaucoup. Alors je vous rassure, je ne m'intéresse pas au football, que ce soit masculin ou féminin, je vais me faire détester, mais en tout cas, ce n'est pas par sexisme. Je n'ai rien contre les femmes qui jouent au foot, j'ai rien contre les hommes qui jouent au foot, simplement je préfère regarder de la pétanque.
Aux États-Unis,
ça charrie des sommes moins importantes.
C'est presque un ballon rond.
C'est plusieurs ballons ronds.
Et pourquoi vous dites qu'on en fait trop rapidement avant le rappel des titres?
Tout ce que je voulais dire, c'est que si on en fait autant, c'est aussi pour provoquer, pour nourrir ce marché, pour le faire grimper. Et dans ce sens-là, c'est plutôt bien. Ça aidera à ce que les femmes gagnent davantage quand elles jouent.
On s'arrête là-dessus. On marque une pause. On va réfléchir pendant ce temps-là. 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Léo Técher. Et on enchaîne là-dessus.
Les choses ne seront plus jamais les mêmes pour le foot au féminin. C'est Emmanuel Macron qui le dit en exclusivité sur France Info avant la finale de la Coupe du Monde remportée ce soir par les États-Unis 2-0 contre les Pays-Bas. Et après l'enthousiasme du public, donc, le président considère qu'il faut désormais aider les clubs à accueillir les jeunes filles qui vont s'inscrire à la rentrée. Le président est également interrogé sur la grève des correcteurs du bac. Il la compare à une prise d'otage des enfants et de leurs familles. Quelques élèves ont eu des résultats provisoires vendredi, leurs copies n'ayant pas été rendues par des professeurs grévistes. Emmanuel Macron, qui est resté à Lyon pour un dîner ce soir avec son ancien ministre de l'Intérieur et de nouveau maire, Gérard Collomb, et pour un petit déjeuner demain avec le président de la métropole, David Klimmelfeld, les deux hommes qui sont rivaux pour les municipales de l'année prochaine. En Grèce, le premier ministre Alexis Tsipras reconnaît sa défaite aux législatives. C'est le conservateur Kyriakos Mitsotakis qui va le remplacer après sa victoire. Retour donc au pouvoir d'un parti traditionnel, la droite, qui remporte 40% des voix contre 31% pour le parti de gauche radical Syriza. Et puisqu'on parle de sport féminin, ce soir il y a aussi du basket avec la finale de l'Euro dans 10 minutes. La France contre l'Espagne, quatrième finale de suite pour les Bleus. Elles ont perdu les trois dernières et notamment deux fois contre les Espagnols.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Ah, je vous ai vu frémir à l'évocation par Léo Técher de ce dîner lyonnais. Rassurez-vous, on y revient dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout d'abord, Serge Auru, pour rebondir sur ce que disait Judith Vintraub, est-ce qu'on en a trop fait avec ce football haut féminin?
Non, c'est correct. Moi, je trouve que ça a été un traitement équitable qui a été réalisé. Moi, j'ai adoré cette Coupe du Monde.
Si on en a fait autant, Marie-Cécile Naff, c'est peut-être aussi que ça intéresse les publics qui sont venus forcément nombreux hein, devant les écrans.
Les chiffres sont là. La BBC a réalisé pour la demi-finale Angleterre-États-Unis son meilleur score de l'année. Ouais. Tout programme confondu. Donc il n'y a pas que chez nous, il y a aussi ailleurs. Bien sûr, les gens ont envie d'aller voir ce spectacle. Et il y a eu un basculement en 2011. Il y a eu un basculement en 2011. Et là, les médias se sont rendus compte qu'il y avait une véritable audience. Et si c'est diffusé sur vos confrères TF1 et Canal+, c'était pas par philanthropie, c'est parce qu'ils savaient très bien que ça marcherait.
Allez, interrogé sur le racisme et sur l'homophobie dans les stades de football, voici ce qu'a dit Emmanuel Macron, favorable à l'arrêt des matchs.
Moi, je suis totalement en soutien de ce qu'a dit la ministre. Je pense qu'on ne peut pas s'habituer à l'homophobie et au racisme sous prétexte qu'on serait dans un stade de football. Il n'y a aucun sport dont l'ADN, dont les racines, dont l'esprit, c'est le discours de haine. Et c'est la responsabilité des clubs et avec eux...
Des clubs.
Bah, non, mais quand on arrête, ça pénalise les clubs. Mm-hmm. Mais enfin, les clubs et avec eux de leurs supporters, bah, de rentrer dans maintenant ce qui est l'art d'être supporter, ce qu'on doit être quand on est supporter.
Oui, mais c'est une culture d'être supporter.
Mais c'est une culture, mais on peut la changer. Et je pense qu'il n'y a rien qui justifie et il n'y a rien qui devrait nous faire dire c'est une culture de haine. On se bat partout dans la société contre l'homophobie et le racisme. Et on l'accepterait dans nos stades ? Bien sûr que non. Dans nos écoles, les classes emmènent les enfants regarder du théâtre. Et on n'apprend pas aux jeunes à aller regarder du sport. Ça s'apprend de devenir supporter. Il n'est pas dit qu'être supporter, c'est forcément proférer des cris de haine contre l'ennemi, c'est forcément siffler l'hymne du pays d'en face. Non.
Donc là, il faut des consignes plus claires pour les arbitres pour qu'ils arrêtent les matchs dans ces cas-là.
J'y suis totalement favorable. Il faut une mobilisation de tout le monde. Des arbitres, des présidents, des entraîneurs, des joueurs.
Alors, François Hernandez, est-ce que c'est la bonne idée ? Stop le match dès qu'il y a des cris racistes, homophobes dans les tribunes.
Je n'ai aucun problème pour dire que le président de la République a absolument raison. Je pense qu'il faut marquer le coup. Je pense qu'on ne peut pas tolérer qu'il y ait des espaces publics où s'expriment des choses pareilles. Enfin, je ne vais pas faire le bêtisier de tout ça, mais c'est proprement terrifiant. Donc je pense qu'effectivement, la proposition du président de la République me paraît relever du gros bon sens. Je voudrais dire aussi que face aux phénomènes qui se sont développés autour des stades, le hooliganisme, etc., les pouvoirs publics, le plus souvent, ont pris les choses en main, et on a des situations qui ne sont plus aussi dramatiques ni aussi violentes qu'elles ne l'étaient il y a seulement 5, 6 ou 10 ans. Donc c'est la responsabilité des pouvoirs publics dans l'espace public de signifier quelles sont les limites dans les comportements de groupe. Et ça fait sens.
Judith Vintraube, qui décide à ce moment-là, qui a la responsabilité de stopper un match ?
C'est le club aussi.
Alors là, je ne sais pas du tout.
Ça dépend.
Vous avez bien la question, c'est pour ça que je vous ai la question.
Là-dessus, parce que je me disais qu'il y avait bien d'autres... Il y avait énormément de ménage à faire et que c'est de la responsabilité des pouvoirs publics dans les clubs. Et là, je ne parle pas des grands clubs et des grands événements sportifs. Dans les petits clubs, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines à peine est sorti un rapport parlementaire sur la radicalisation dans les services publics, où on s'apercevait que dans les clubs de sport et singulièrement dans les clubs de foot, la situation était extrêmement inquiétante et que c'était un angle mort de la politique de lutte contre la radicalisation et l'islamisation des pouvoirs publics.
Il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Marie-Cécile Nave, qui appuie sur le bouton, enfin qui éteint la lumière, grosso modo, du match, ça se produit ? Le club ?
Ça dépend de quelle compétition on parle. La plupart des matchs se jouent en club et c'est la responsabilité à la fois des clubs, de la fédération et des collectivités locales.
Compliqué comme question quand même.
Le sport se considère comme une sphère à part du reste de la société. Il a des valeurs très incantatoires, très positif, mais sur le papier et dans les faits, il est même souvent à l'abri. Il se considère comme étant à l'abri du droit commun. Quand on est dans des compétitions comme celle qui vient de se terminer, c'est la FIFA, l'Euro, c'est l'UEFA. Donc ça dépend.
À chacun sa responsabilité.
C'est un peu tout le monde. En fait.
Oui, Serge Rue, le discours qu'on peut, une fois de plus, qu'on a entendu ça et là, c'est la tradition, ça se passe comme ça dans les gradins, dans les tribunes. C'est inaudible, c'est inadmissible. On est d'accord.
C'est insupportable, mais le racisme et l'homophobie, c'est insupportable. C'est insupportable dans un stade de foot, c'est insupportable dans un gymnase, dans un bassin olympique de natation ou à l'école ou dans la rue. Donc l'histoire, c'est pas simplement au club sportif de supporter cette haine ou cette homophobie. Je pense à l'école, je pense aux parents que nous sommes bon. Aussi. Nous avons une responsabilité importante. Collective. C'est pas le président Macron qui va décider. C'est pas lui qui va avoir la responsabilité de cette lutte-là. Il faut que nous la prenions chacun, que nous prenions notre part.
Chacun prend sa part.
Et les uns et les autres. Et c'est un dur combat qu'il faut mener ardemment, qu'on n'a pas mené ardemment jusqu'à jour.
Allez, on marque une pause, 20h et 28 minutes sur France Info. On se retrouve dans un instant pour la suite de ces informés édition spéciale. On va parler des municipales, c'est promis. À tout de suite. La route avec vous, bonsoir Anis Cachaner, bonsoir, il y a du monde sur l'A13 ce soir. Hein.
Oui c'est ça, vous êtes nombreux à avoir passé le week-end en Normandie. Conséquence, ça coince en direction de Paris. C'est très chargé avant et après le péage de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, environ 10 km de ralentissement. Ça coince aussi dans l'agglomération lyonnaise, hein, après la finale de la Coupe du Monde. Quelques bouchons sur l'A43, notamment en direction de Chambéry. Et puis la situation s'est nettement améliorée sur l'A7 entre Valence et Montélimar. Encore un peu de monde, mais rien à voir avec les bouchons de cet après-midi.
Allez, prudence sur les routes. Merci à vous, Anis Cachaner.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et le rappel de la météo, c'est avec vous, Jean-Michel Golinski pour Météo France.
Si demain le Massif central et les régions de l'Est retrouvent un temps plus calme avec un faible risque d'ondées et parfois un éclair, c'est dans le quart sud-ouest et en particulier près des Pyrénées que l'ambiance sera marquée par les orages avec des pluies soutenues sur la chaîne, en particulier sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Sur le reste du pays, le vent de secteur nord sera assez désagréable, notamment de la frontière belge au centre et près de l'océan, du vent également sur la Corse mais orienté à l'ouest, le tout sous un ciel souvent bien dégagé, sauf le matin au nord de la Seine. La température maximale la plus basse sera de 20 degrés à Lille, la plus élevée de 36 à Nîmes. Il fera plus généralement 20 à 27 degrés dans le nord-est et dans la moitié nord du pays, 29 à 31 sur les régions centrales et 32 à 35 du sud-ouest au bassin méditerranéen.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Les Américaines, décidément sans rival sur la planète foot, elles remportent ce soir une 4e Coupe du Monde féminine en battant les Pays-Bas en finale 2-0 à Lyon, malgré l'étouffante chaleur et l'organisation rigoureuse des Néerlandaises. L'attaquante américaine Megan Rapinoe, auteure d'un des deux buts de ce soir, et elle était sacrée meilleure joueuse et meilleure buteuse du mondial. Et juste avant cette finale, l'entretien exclusif accordé par Emmanuel Macron à France Info depuis le stade de Lyon à propos des enseignants qui ont refusé de rendre des copies du bac. On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage, a martelé Emmanuel Macron, ajoutant que le ministre de l'Éducation avait eu la bonne réaction. La ministre de la Justice, elle reconnaît que l'État ne fait pas assez, surtout pas assez vite face au féminicide, 75 depuis le 1er janvier, d'après le décompte d'un collectif. Nicole Belloubet qui annonce une mission d'inspection pour revenir sur les éventuelles défaillances dans les dossiers classés. Elle évoque aussi le déploiement de nouveaux outils, notamment des bracelets électroniques anti-rapprochement. Une deuxième victoire d'étape pour le maillot jaune Mike Tennyson, lauréat de la première étape en ligne hier. Le jeune coureur de 26 ans a aussi remporté avec sa formation Jumbo le contre-la-montre par équipe de 27,6 km autour de Bruxelles. Fabrice Rigobert.
Dans un exercice que l'on pensait plus favorable à Ineos, l'équipe de Geraint Thomas et Egan Bernal, la Jumbo du maillot jaune a survolé les 27 km 600 du contre-la-montre urbain de cette deuxième étape. En tête à chaque point intermédiaire, parfaitement en ligne et organisée autour de l'ancien champion du monde Tony Martin, la formation néerlandaise a permis à Mike Tennyson de creuser l'écart en tête du général en repoussant à 20 secondes les Britanniques d'Ineos, à 21 secondes les Belges de la Deceuninck Quick-Step, dont le Français Julien Alaphilippe désormais à 31 secondes du maillot jaune. Dans l'optique de la bataille pour la victoire finale, finale avec une 8e place dans ce chrono. Thibaut Pinot a seulement lâché 12 secondes au vainqueur sortant du tour, là où son compatriote Romain Bardet a lui abandonné 59 secondes avec la 19e place sur 22 de son équipe dans cet exercice si particulier. Une hiérarchie est maintenant établie en attendant la première arrivée au sommet mercredi à la planche des Belles Filles. Bruxelles, Fabrice Rigobert, France Info.
Et demain lundi, 3e étape du tour, les coureurs partiront de Binche en Belgique et traverseront la frontière pour rejoindre Épernay en Champagne. L'équipe de France de triathlon conserve elle son titre mondial de relais mixte à Hambourg en Allemagne, un résultat qui assure quasiment la qualification des Bleus emmenés par leur tête d'affiche Vincent Louis et Cassandre Beaugrand pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sera précisément dans un an. Les informés, ça continue.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Avec nos quatre experts, Judith Vintraub, qui est grand reporter au Figaro Magazine, avec Marie-Cécile Nave, vous êtes directrice des études du think tank Sport et Citoyenneté, et vous dirigez l'Observatoire Genre et Géopolitique de l'IRIS, avec François Hernenwein, rédacteur en chef à La Croix, enseignant à Sciences Po, et vous, Serge Auru, conseiller auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Je pense que le sujet qui arrive va vous intéresser. Les municipales n'étaient jamais très loin dans ce qu'a dit le chef de l'État. Emmanuel Macron, eh bien, a évoqué le retrait du partenariat de Total des JO 2024.
Je veux que le budget soit tenu, je veux qu'on mobilise le maximum d'argent privé. Moi, j'entends parfois des états d'âme sur l'argent privé. Enfin, je regarde ce qu'ont fait les Britanniques, ce que font les Japonais.
Total se désengage après les pressions de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais vous souhaitez que
idée.
Total revienne?
Mais s'ils ne l'ont pas fait pour Paris, mais je le dis très sincèrement, qui est des entreprises qui polluent? C'est le cas. Mais enfin, je ne vais pas expliquer à tous les salariés de Total en France qu'ils ont un travail qui n'est pas digne. Total doit s'engager dans une politique de transition énergétique. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut les aider à cela. Et si Total peut mettre de l'argent pour financer, aider à financer des jeux verts, si Total peut mettre de l'argent pour aider à financer la transition, c'est une bonne chose. Mais moi, qu'on me trouve l'argent privé, qu'on écarte. C'est plus facile d'aller l'écarter en donnant des leçons de morale que d'aller en trouver. Donc maintenant, on doit mobiliser collectivement tous les financeurs français pour qu'il y ait évidemment l'argent privé.
Ils sont
privé
tous les bienvenus.
Ils sont tous les bienvenus. Et ils sont tous les bienvenus avec un cahier des charges qu'on a mis en place.
Alors Serge Auru, c'était pas une bonne idée?
Le problème, ce n'est pas l'entreprise Total. Total, c'est une grande entreprise avec de grands professionnels. Le problème, c'est le péril climatique. C'est le pétrole. On ne peut pas vouloir des JO verts et avoir une entreprise comme Total comme partenaire. Et ne croyez pas un instant que Anne Hidalgo a mis le couteau sur la gorge au président de Total en lui disant « on ne veut pas de vous ». Il y a une discussion intelligente et courtoise entre deux personnalités qui ont décidé de ne pas y aller.
Est-ce que dit Emmanuel Macron sur le thème, il faut accompagner une grande société comme Total vers une sorte de transition
très
énergétique,
etc. Le président Macron a d'autres qualités que celle d'être un écologiste. Donc l'idée, c'était que Total s'engage. Et je pense que le COJO était très intéressé, parce que Total est une grande entreprise, je répète. Mais on veut des JO verts, donc il y a une cohérence à avoir.
De carburant vert.
Mais ne croyez pas un instant que c'est Anne Hidalgo qui a appuyé sur le bouton et en disant Total niet. Ça s'est passé entre deux personnalités, entre une institution,
subtile,
Paris, et une grande entreprise, et ça s'est très bien passé.
Judith Vintraub.
Total est la plus grande entreprise française en chiffre d'affaires, 200 milliards par an, sur lesquels elle investit 2 milliards par an sur les énergies propres et les batteries électriques. Alors quand Emmanuel Macron dit qu'il faut aider les entreprises à la transition énergétique, il a parfaitement raison. Et si on affiche que certaines entreprises, non seulement ne sont pas les bienvenues, mais seraient bienvenues d'aller voir ailleurs si on y est, parce qu'elles n'ont rien à faire dans notre futur, c'est un signal absolument désastreux qu'envoie Anne Hidalgo.
Mais le signal désastreux, c'est le péril climatique. Nous vivons une catastrophe climatique. Nous avons vécu une canicule monstrueuse la semaine dernière. Et
J'ai dit le contraire à un moment.
Non.
Qu'est-ce que vous faites des 2 milliards investis par Total? On s'en fout? C'est pas bien?
Mais moi,
ça fait quand même une méchante entreprise.
D'abord, je ne dis pas je m'en fous, chère madame. Et ensuite, de quoi? Les énergies renouvelables, j'y suis pour. Là, il s'agit d'un partenariat avec des Jeux Olympiques sur lesquels, reconnaissez-le, Anne Hidalgo a joué un rôle considérable pour pouvoir les gagner avec Tony Estanguet. Donc là, on a gagné parce que les Jeux Olympiques ont été présentés comme des Jeux Olympiques les premiers écologistes de l'histoire des JO. Et donc là, il y a une cohérence à avoir. Oui. Je peux comprendre ce que vous dites. Mais permettez-moi d'insister.
Je me suis contenté d'énoncer des faits.
On va écouter les arguments de vous, juge de paix, hein, François Hernan Varenne.
Non, mais rapidement, il y avait la perche tendue à travers la question pour un tacle à Anne Hidalgo. Ça a été fait, on est en pré-campagne municipale. On voit bien l'idée qu'il y avait, qu'avait le président de la République en insistant sur cet aspect-là des choses. Mais le problème, c'est pas total. Si vous regardez bien la nature même du propos du président de la République, son souci, c'est l'argent privé des JO. Et tout son argumentaire était construit autour de l'idée il faut que les sponsors soient nombreux et généreux à l'occasion des JO parce que il ne veut pas que la facture soit trop élevée pour l'État ou les collectivités locales. Donc, mais ça, c'est une logique du sport qu'on peut questionner en tous les cas.
Marie-Cécile Nave, pour poursuivre ce que dit à l'instant François Hernandine sur l'histoire du Total.
Il faut se rappeler, pour que tout le monde ait bien ça en tête, qu'est-ce qui fait pencher la balance en faveur de Paris de la part du Comité international olympique ? C'est le plan héritage promis par le COJO, par les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Le plan héritage, c'est les retombées sociales, économiques, environnementales, donc les trois aspects du développement durable, en amont et en aval des Jeux. Et donc, ça a comme conséquence que les sponsors qui ont différents degrés d'engagement dans cette compétition-là, ont un cahier des charges à respecter en matière de RSE, en matière d'exemplarité, en matière de management, etc., etc. Et moi, je crois peut-être que Total n'a pas voulu respecter ce cahier des charges et c'est aussi pour ça peut-être qu'il se retire du sponsoring.
Enfin, tout le monde
autre
sera...
Autre version, donc...
Surtout que je pense que tous les auditeurs, les téléspectateurs ont en mémoire la fausse surprise, la fausse joie d'Anne Hidalgo disant « Oh, c'est merveilleux, Paris a été choisi. »
Vous en êtes là, vous.
Alors, excusez-moi, j'ai quelques souvenirs.
Vous êtes là pour faire ce commentaire disgracieux.
Disgracieux.
Mais oui, tout à fait.
J'ai entendu beaucoup de choses sur les commentaires, vrai, pas vrai,
disgracieux. C'est vrai. Elle était heureuse.
Voilà autre chose.
Elle était heureuse et elle représentait la France en ce moment-là. C'est pour ça qu'elle a montré.
Elle a joué à suspense qui n'existait pas.
Elle a montré son émoi. Si vous la connaissez bien.
Pardonnez-moi, mais quel rapport avec l'affaire de Total?
Non, c'est pas.
Mais le bashing Hidalgo habituel.
Non, pas par rapport au fait que Paris n'a pas été sélectionné pour la vertu de son cahier des charges. C'était joué d'avance.
Encore un mot.
Non, c'était joué d'avance. Non. C'est faux.
C'est faux.
Tous les autres candidats se sont retirés parce que ce cahier des charges-là était. Tous les autres candidats se sont retirés parce que les engagements en matière d'héritage étaient impossibles à tenir pour les autres villes candidates.
Bien sûr, il n'y avait aucune dimension diplomatique ni géopolitique là-dedans.
Une précision avant le rappel de l'info.
Je n'ai pas dit ça.
On prend un peu de retard, mais Serge Rue, rapidement, Total, c'est sans retour malgré l'injonction présidentielle.
Mais je le rappelle, c'est une décision que le président de Total a prise avec la maire de Paris, à deux.
Allez, 20h40 sur France Info. On va parler un petit peu des municipales, tiens, puisque le sujet était en creux de cette affaire Total. Rappel de l'info donc avec vous, Léo Téchère.
Une quatrième étoile sur le maillot des Américaines. Les États-Unis championnes du monde de football après leur victoire 2-0 contre les Pays-Bas. Megan Rapinoe est sacrée meilleure buteuse et meilleure joueuse du tournoi. La France, elle, pourra se consoler ou pas avec le prix du fair play. Prochaine grande compétition organisée en France, les Jeux Olympiques de 2024, qui ne seront donc pas sponsorisés par Total, faute d'accord avec la mairie de Paris. Ce que regrette Emmanuel Macron, invité de France Info avant la finale de la Coupe du Monde. Il souhaite que le budget des Jeux soit tenu, même si l'entreprise est polluante. Il faudrait, selon lui, aider Total à financer des Jeux verts et à financer la transition énergétique. La France demande à l'Iran de cesser toutes ses activités non conformes à l'accord nucléaire de 2015. Téhéran recommence à enrichir de l'uranium à un niveau qui lui est interdit par cet accord. Le pays a menacé aujourd'hui de s'affranchir d'autres obligations d'ici 60 jours. Et puis des tonnes de poissons retrouvés morts dans la Seine après l'incendie d'une station d'épuration dans les Yvelines, l'une des plus grandes d'Europe qui traite 60% des eaux usées de l'agglomération parisienne et qui était classé Céveso, seuil haut à cause des risques toxiques.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Ah, c'est Léo Técher qui tout à l'heure rappelait que le chef de l'État dînait ce soir avec Gérard Collomb, son ami intime, maire de Lyon. Et demain, il y aura le petit déjeuner avec David Kimmelfeld. Alors lui, c'est le président de la métropole de Lyon, grand rival du maire, dauphin du maire. François Erdenwein, je reviens vers vous. Les municipales sont bel et bien là. Le chef de l'État se déplace voir un match, il donne une interview, mais en même temps, eh bien, il y a toujours cette campagne qui ne dit pas son nom.
Ben, les municipales approchent, c'est pas très loin, on en est à la constitution des listes, et c'est l'objet de formidables tensions, puisque La République En Marche n'a pas de formidable implantation locale, donc elle cherche les combinaisons, mais à certains endroits, elle est tentée d'y aller sous ses propres couleurs. Et ça ajoute de la confusion ou de l'illisibilité aux stratégies de la majorité actuelle à l'approche des municipales. Et le président de la République, je pense, va passer beaucoup de temps à recoller les morceaux, même si c'est pas lui qui constitue les listes. En tous les cas, il veille au grain. Il veille au grain, et en veillant au grain, il aura beaucoup de travail. S'il veut que la moisson soit généreuse.
Pour vous, il est là, il cherche à recoller les morceaux, à mettre un peu de baume au cœur à Gérard Collomb, qui se sent un petit peu abandonné à Lyon.
Leur relation, je veux pas entrer dans le registre de la tragédie grecque, mais leur relation historiquement a été compliquée, et on a la prolongation des difficultés nées de la démission de Gérard Collomb, du départ de Gérard Collomb, etc.
Judith Vintraube, officiellement, c'est une CNI qui décide, une commission nationale d'investiture, ou c'est le chef de l'État
Attention, je vais encore ricaner. si on me raconte des contes de fées comme ça toute la soirée, je vais encore ricaner. Bien sûr que non. En plus, Emmanuel Macron connaît, maîtrise et s'intéresse à la carte électorale. Tous ceux qui en parlent avec lui en témoignent. Vraiment, c'est quelque chose qu'il passionne depuis longtemps. Les structures démocratiques, s'il y en a, de La République En Marche, sont telles que, heureusement, quelqu'un décide, parce que sinon, il y aurait beaucoup de flottement. Mais pour
c'est vrai qu'il faut ricaner, en plus.
J'ai ricané. Oui. Pour revenir à Lyon, Lyon, problème avec Gérard Collomb, c'est tout ce qu'a dit François, plus le fait que Gérard Collomb est très gourmand. Il aurait pu passer un accord avec Klimfeld pour Klimfeld la métropole, à lui la ville. Ça aurait été éventuellement possible, mais il voulait tout.
Mais on peut tomber d'accord, je dis, dans le paysage politique français, Gérard Collomb n'est pas le seul gourmand. Emmanuel Macron rencontrer, au moment de la constitution des listes, des difficultés comparables. Surtout que c'est le problème de l'ambiguïté politique à l'approche des municipales de la majorité actuelle. Est-ce qu'elle s'allie avec la droite? Est-ce qu'elle cherche des accords avec des maires de gauche? Ou est-ce qu'elle est tentée par l'aventure solitaire, c'est-à-dire, sur la base de son programme et de ses convictions, aller devant les électeurs?
Donc, réponse en même temps.
En même temps, fois, ça fait beaucoup. Oui.
Alors vous, Serge Rue, c'est pas Collomb et Kimmelfeld, c'est Griveaux-Villani, à Paris. Je rappelle que vous habitez Paris, donc pour ça, je vous pose la question. Vous pensez que le chef de l'État a déjà fait son choix?
Je ne sais pas. Non, franchement, je l'ignore totalement. Je pense que ça doit être difficile. Il faut comprendre. Il a un choix multiple, que le meilleur gagne.
La République En Marche dispose de champions, enfin de candidats, elle dispose d'électeurs, mais a fait effectivement assez peu de structuration, d'implantation dans les grandes villes.
Qui trop étreint mal embrasse. Moi, je crois que ils ont à leur place, ils ont raison de vouloir gagner des villes. Mais pour les municipales, ça passionne le président de la République, comme tous les présidents de la République, mais ça nous passionne tous. Parce que élire le premier édile de la commune, c'est quelque chose de passionnant. Donc c'est des batailles municipales, locales, particulières, difficiles. Ce serait une bataille difficile, belle. Il faudra la gagner.
Vous en tirez bien. Allez, le président fait de la politique dans cette interview, en creux forcément. Emmanuel Macron, au micro donc de Jacques Vendroux et de Jérôme Cadier sur France Info cet après-midi, a évoqué le conflit du bac.
Le ministre a été très clair dès le début. Il a aussi été très clair sur les règles du jeu. Il a appelé tout le monde au devoir. Il a été très clair sur les règles du jeu et ses notes provisoires et les règles après correction des copies. Donc les choses sont sous le contrôle. Et je pense que le ministre a eu la bonne réaction. Moi, je respecte chacune et chacun. Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale. Mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits. Tout le monde a des droits, mais on a des devoirs.
On ne peut pas prendre les enfants en otage, François Ehrenwein. Petit discours musclé, là, hein, d'Emmanuel Macron.
Mais il est à la fois dans sa fonction, je ne vois pas le président de la République dire autre chose que devant la situation qu'on a connue ces derniers jours au moment de la correction des épreuves du baccalauréat. Mais moi, je pense qu'il a absolument raison d'affirmer ce qu'il dit là, et ça pose un certain nombre de questions sur les stratégies des gens qui veulent s'opposer à la réforme du bac. Je pense que, d'une certaine façon, prendre les élèves en otage, c'est quand même pas grandiose comme stratégie syndicale.
Mmh. Là-dessus, Judith Van Traub, vous partagez le point de vue de François Ehrenwein.
Je partage tout à fait le point de vue de François Ehrenwein, pardon. Et en plus, quand on écoute les professeurs qui sont livrés à la rétention de copies, on se demande dans quel monde ils vivent. Ils vous expliquent que si la réforme du bac, telle que Jean-Michel Blanquer l'a souhaitée, était mise en œuvre, ouais, le bac deviendrait inégalitaire. On ferait le tri entre les enfants selon l'établissement dans lequel ils ont eu leur bac. Comme si c'était pas déjà le cas. Comme si le système éducatif français n'était pas gravement malade. Puisque non seulement il ne corrige pas les inégalités, ce qui est sa vocation première, mais il les aggrave.
François Ehrenwein, oui.
Non, mais je ne me prononçais pas sur la réforme du bac. On pourra avoir un autre débat.
Mais je trouve que la forme et le fond sont liés.
Quel bac nécessaire en France. Mais ma réponse portait à la question qui m'était posée sur la stratégie des enseignants, la rétention des notes, ça me paraît proprement scandaleux.
Et quand il dit, quand il affirme lors de ce passage qui était assez remarqué, c'était la fin, la toute fin de l'interview, que les choses étaient sous le contrôle, je le cite, vraiment ?
En tous les cas, il a trouvé une solution pour donner des notes à tout le monde en utilisant les résultats du contrôle continu. C'est du bricolage, mais en tous les cas, ça lui permet au moins de sauver la face.
Judith Van Traub, il a tenté là peut-être ce soir d'éteindre un peu l'incendie, parce qu'il a quand même glorifié le métier de professeur.
Il a insisté sur le fait que les profs qui s'étaient livrés à ça étaient extrêmement minoritaires et que ça risquait de rejaillir sur toute la profession. Un prof peut très bien faire grève, mais il ne garde pas les copies, il ne les corrige pas, c'est tout.
Mais total soutien également à Jean-Michel Blanquer, François Ehrenwein.
Oui, ça fait partie de la fonction présidentielle, de ne pas lâcher ses ministres en rase campagne.
Oui, oui, allez, il est 20h et on va parler un petit peu de sport pour conclure cette émission spéciale. Rassurez-vous, Marie-Cécile Nave, je vais vous solliciter, vous inquiétez pas. Allez, 20h et 50 minutes sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Léo Técher.
Emmanuel Macron dénonce donc une prise d'otage. Le président de la République parle de la grève des correcteurs du bac. Certains n'ont pas rendu leur copie et des élèves attendent donc toujours leur note définitive. Emmanuel Macron, invité de France Info, en exclusivité avant la finale de la Coupe du Monde féminine, remportée ce soir par les États-Unis contre les Pays-Bas. Il en a également profité pour se dire favorable à l'arrêt des rencontres en cas d'incident homophobe ou raciste. On ne peut pas s'y habituer, dit le président, sous prétexte que l'on serait dans un stade de football. La liste des féminicides s'allonge. 75 meurtres de femmes par leur conjoint depuis le début de l'année, selon un dernier décompte. Ce matin, la ministre de la Justice a reconnu que l'État ne faisait pas assez contre ce phénomène. Un Grenelle des violences conjugales aura lieu à la rentrée et Nicole Belloubet proposera d'élargir le recours au bracelet électronique d'éloignement. Un navire humanitaire allemand toujours interdit d'accoster à Malte, mais les autorités maltaises acceptent finalement d'aller chercher les 65 migrants restés sur le bateau. Le Premier ministre a trouvé un accord pour les répartir au sein de l'Union européenne. Dans un tweet, l'ONG CI demandait à voir si les gouvernements européens soutenaient la position de l'Italie qui refuse tout débarquement de migrants. Et puis l'équipe Jumbo remporte la deuxième étape du Tour de France, un contre-la-montre par équipe. Et c'est donc le Néerlandais Mike Tennyson qui conserve son maillot jaune.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et enfin, il y aura eu, on va dire, allez, la touche personnelle de l'interview d'Emmanuel Macron sur France Info.
J'aime la compétition,
oui.
J'aime supporter nos athlètes, nos équipes, et je me suis toujours adonné au sport et je continue J'essaie de le faire régulièrement, au moins deux fois par semaine, parce que c'est aussi la condition pour être dans le bon état, prendre les bonnes décisions, voilà.
Quel sport, Monsieur le Président ?
Aujourd'hui, je fais plus de la course et de la boxe.
Avec le Premier ministre ?
Non, pas avec le Premier ministre. On n'en fait pas ensemble, parce que je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se blesse l'un l'autre. Mais j'en fais avec souvent mon équipe de sécurité.
Merci pour le micro. Voilà, ne pas se blesser l'un l'autre. Marie-Cécile Nave, les présidents et le sport, c'est un peu un parcours obligé désormais. Hein. Chacun y va de son anecdote. Nicolas Sarkozy, c'était le vélo, par exemple. François Hollande, c'était le football.
Oui, mais c'est assez nouveau en France.
C'est récent.
C'est assez récent, effectivement. C'est depuis Nicolas Sarkozy, alors que dans d'autres pays comme les États-Unis, par exemple, c'est plus ancien. Mais oui, il y a cette correspondance entre la politique. Le capitalisme aussi, et puis le sport avec des valeurs d'abnégation, de compétition, de dépasser ses limites. Bon, c'est un peu dommage, je trouve, que le président de la République parle du sport uniquement en ces termes et qu'il ne parle pas de lutte contre la sédentarité, notamment chez les enfants, parce que les enfants d'aujourd'hui font moins d'activités physiques que les adolescents d'aujourd'hui quand ils étaient...
bon pour la santé.
Oui, c'est dommage que ce ne soit pas envisagé de manière transversale.
Quand il évoque les enfants, dès leur plus jeune âge, une heure de sport, et finalement ça va mieux à l'école, ensuite dans les cours, c'est un peu l'idée quand même, non ?
Oui, mais bon, l'école est assez exemplaire en France en matière de sport. On est premier en Europe en termes d'horaire d'EPS sur l'ensemble de la scolarité. Ce qui se joue, c'est plutôt en dehors, c'est le fait de ne pas marcher, le fait de ne pas faire de vélo, le fait d'être beaucoup devant les écrans.
Oui, oui.
Et il faudrait profiter de la création de l'agence du sport pour faire de ce sujet-là un véritable levier de transformation sociale et, j'insiste, interministériel transversal.
Justement, je reste encore un peu avec vous, Marie et Cécile Nave. Le sport est un défi français, a même déclaré dans cette interview le président de la République, citant, je crois, la Coupe du Monde donc qui vient de s'achever, le rugby en 23, tu dis les JO en 24. C'est à la fois un défi, dans quel sens ? C'est sociétal, c'est économique ?
C'est ça, et c'est aussi diplomatique. C'est aussi le monde qui nous regarde avec ces trois grandes compétitions qui sont organisées en quelques années. Vous l'avez dit, le mondial masculin de rugby en 2023, les Jeux olympiques et paralympiques l'année d'après. Comme Emmanuel Macron veut avoir sur la scène internationale une place, un rôle important, et qu'il est adepte du soft power, notamment sur les questions aussi d'égalité femmes-hommes. Hein, on verra au G7 ce qu'il en est en août. Eh bien, le sport peut être aussi envisagé comme un moyen de rendre la France exemplaire sur les questions de retombées sociétales, de retombées éducatives, de retombées environnementales, de retombées sanitaires. Et encore une fois, ça ne se décrète pas. Là, on est dans les slogans, dans les discours. Il faut des politiques d'accompagnement et évaluer ces politiques, voir quels sont les effets produits.
François Ehrenbreit, c'est aussi un petit pas dans le quinquennat suivant, en fait.
Oui, non, mais... À mon avis, avoir de grandes ambitions pour les JO, puisqu'il en était question à l'instant sur le plan de l'environnement et de l'inclusion, ça me paraît être légitime et, pour un président de la République, porteur d'un projet qui accompagnera son mandat. Tout ça me paraît parfait. Simplement, il faut avoir un peu de mémoire, et vous ne me démentirez pas, les bilans d'un certain nombre de Jeux Olympiques n'ont pas été excellents sur ces questions. Alors maintenant, on met l'accent là-dessus. On va parler de Sochi ou des JO au Brésil, les Jeux d'hiver à Sochi ou au Brésil. Enfin, franchement, quand on a débriefé les JO, on a vu la catastrophe. Et même au moment où ils se mettaient en place, sur le plan social, sur le plan environnemental, les deux dossiers qu'on vient d'évoquer, les JO que je viens de citer, ont été des catastrophes. Donc, je pense que... Au-delà des déclarations d'intention, quand on préparera les JO, quand on entrera dans cette dynamique, les citoyens devront être vigilants. On ne doit pas leur promettre la lune, y compris en matière sportive.
Ouais, Serge Auru, le défi français du sport, les JO notamment, à Paris...
On est un pays où on se plaint tout le temps, il faut quand même saluer la qualité de l'organisation des grands événements en France et depuis longtemps.
Globalement.
Mais oui, regardez, maintenant il faut vraiment éco-concevoir l'événement, il faut vraiment qu'il soit totalement écologique, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est un travail qu'il va falloir réaliser, mais saluons les organisateurs de cette Coupe du Monde de foot, mais de tous les grands événements qui ont eu lieu précédemment.
Oui, je vous dis, Tintrop, je vous ai vu sourire à l'instant, pourquoi ? Vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis de bonne humeur. Non, je pensais à la boxe, à Édouard Philippe et à Emmanuel Macron et au municipal,
oui,
à Paris.
Oui, ne pas s'abîmer. Vous y voyez une allégorie particulière ou c'était plutôt une phrase comme ça, quand il dit ne pas s'abîmer, faire de la boxe avec son
copain. Oui, ne pas se faire du mal l'un l'autre. Oui. Non, mais c'est ce à quoi on assiste. Chacun est dans son couloir et il a été convenu entre eux qu'il n'y aurait pas de compétition.
Voilà.
D'où d'ailleurs la rumeur persistante d'une candidature.
Ouais. Si on traduit en langage courant, Philippe à Paris, ce qu'il a dit là, on a besoin l'un de l'autre.
Voilà. Et d'où la rumeur permanente d'une candidature d'Édouard Philippe à Paris, parce qu'Édouard Philippe, quand arriveront les municipales, il sera resté 4 ans. Si Emmanuel Macron se représente, forcément, il changera de Premier ministre. Édouard Philippe, en restant, prend le risque de l'usure. Il ne sera pas Premier ministre en 2017.
C'est aussi une solution pour mettre les plaideurs d'accord à Paris.
Ouais. Allez, Marie-Cécile Nave, le mot de la fin.
Le mot de la fin, une touche optimiste qui est le fait que la ville de Paris a dévoilé récemment son plan héritage pour les JOP de 2024. Il est vraiment très intéressant sur le fait qu'il est vraiment transversal, lutter contre le décrochage scolaire, améliorer les espaces publics, faire du lien intergénérationnel, embellir la ville. On voit que là, le sport, s'il est bien utilisé, est un vecteur de changement social.
Et c'est une très belle conclusion. Rapidement, François Erdenwein, la une de La Croix.
L'Afrique, Paris sur son marché unique, les pays de l'Union africaine tentent de s'organiser, d'organiser le commerce entre eux, et c'est le signe d'un dynamisme africain.
Merci à vous, François Erdenwein. Merci, Marie-Cécile Nave. Merci, Judith Vintraud. Merci, Serge Auru, d'avoir participé à ces informés. Édition spéciale, interview. Emmanuel Macron, bonne soirée.